Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Et quatrième épisode aujourd'hui de cette semaine spéciale Coluche dans Popopop. Pourquoi une semaine spéciale? À quelle occasion, me demanderez-vous peut-être? Prouvant ainsi que vous n'aurez pas écouté les trois premières émissions, ce qui est tout à fait impardonnable, même si, heureusement, il y a Findus et les podcasts. Je le répète donc, à l'occasion du 40e anniversaire de sa candidature à l'élection présidentielle de 81, nous célébrons Coluche ici pendant toute la semaine. Élection dont on se souvient qu'elle avait provoqué un gentil dawa, en même temps qu'elle le mettait face à ses contradictions. Because, le célèbre paradoxe du clown, soit, que se passe-t-il quand le bouffon est pris au sérieux et qu'il cesse de faire rire pour être investi d'une mission qui le dépasse? Et d'une manière plus générale, jusqu'à quel point un humoriste peut-il se permettre de semer la zizanie dans le jeu violent et feutré de la politique sans y laisser des plumes? Ou encore, comment l'ex-petit voyou de Montrouge, biberonné à la contre-culture harakiri, s'est-il retrouvé dans ce barnum? Et quelles leçons peut-on en tirer rétrospectivement? Qu'est-ce que ça a révélé de notre rapport compliqué dans ce pays à la politique? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous essaierons de répondre en compagnie de Jacques Attali et de Romain Goupil, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont vécu l'aventure aux premières loges. Popopop, spécial Coluche, épisode 4, c'est parti.
France Inter. Popopop. Antoine de Paule.
Coluche a de plus en plus envie de se présenter à l'élection présidentielle. Au début, c'était une sorte de boutade. Aujourd'hui, il a tenu une conférence de presse, une vraie, sur le thème « Ma candidature est une plaisanterie à caractère social ». Mais trouvera-t-il les 500 signatures pour aller jusqu'au bout de sa plaisanterie?
Ah, voilà la question. À mes côtés, celle qui était dans son berceau, dans sa petite salopette, devant cet extrait du JT du 30 octobre 1981, et elle la porte toujours. Bravo, bonjour Charlino.
Plus la même taille, et non, je n'étais déjà plus dans un berceau, Antoine.
Et aujourd'hui, nous ouvrons donc le volet Coluche et la politique. Avec nous, Jacques Attali en distanciel, comme on dit, et Romain Goupil en présentiel. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez tous les deux vécu ce phénomène de l'intérieur, vous, Jacques Attali, en tant que conseiller de François Mitterrand, et vous, Romain Goupil, en tant que directeur de campagne de Coluche. Un point commun supplémentaire entre vous deux, l'amitié que vous lui portiez et qu'il vous rendait bien. Romain Goupil, je dis directeur de campagne, mais en réalité, l'idée de cette candidature ne vient-elle pas directement de vous?
C'est-à-dire que le nom officiel, c'était Éminence Noire, parce que j'avais toujours avec moi une petite mallette, et dans cette mallette, outre les codes nucléaires quand il serait président, j'avais le nombre de... signature jour après jour qui rendrait possible cette élection. Et je n'ai le gros problème que j'ai eu pendant toute cette direction intense, c'était de me souvenir du mensonge de la veille. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons eu, et c'est un scoop, en tout cas si c'est pas un scoop, il faut que ça se sache, nous n'avons eu jamais qu'une seule signature.
Ouais.
Donc il fallait que je baratine sans arrêt en disant à chaque conférence de presse, à chaque entretien, et Dieu sait s'il y en avait, on en est à 180. Et le lendemain, puisque la presse c'est des grands malins et puis ils font de l'investigation, ils disent mais quand même, je comprends pas l'éminence noire à dire 180, et pourquoi il nous dit 140 aujourd'hui? Donc pour pas, j'avais marqué dans ma main 190, 197, 200 et ainsi de suite. Donc voilà, la campagne vient. Et pourquoi je suis nommé à ce poste éminent, c'est parce qu'il s'est fait virer d'Europe 1 sur plein des anciens combattants.
On va y revenir dans un instant, si vous
et
le voulez.
Et puis après, de Radio Monte-Carlo, et on se fait virer ensemble. Et du coup, c'est de là que naît l'idée de la campagne.
J'y reviens dans un instant. Jacques Attali, comment le conseiller de François Mitterrand a-t-il réagi en apprenant la candidature de Coluche? Elle vous a amusé? Elle vous a inquiété?
Vous savez, la fonction de conseiller de François Mitterrand dont vous parlez n'était vraiment qu'une activité à millième de temps.
Vous n'étiez pas l'éminence noire, vous?
Non, mais j'étais pas du tout dans l'appareil du Parti Socialiste, ni quoi que ce soit de ce genre. J'étais un professeur et un écrivain, et un journaliste à l'époque, et j'étais aussi, en effet, le directeur de cabinet à temps très partiel de François Mitterrand. Quand j'ai appris la candidature de Coluche, ça m'a beaucoup amusé, je le connaissais pas. J'y ai pas cru, je l'ai pas pris au sérieux pendant assez longtemps, et il a fallu que des amis communs me parlent de lui d'une façon amicale pour que ça me donne envie de le rencontrer. Mais j'ai trouvé que c'était une candidature qui fonctionnait comme un révélateur, parce qu'il y avait des tas de gens qui allaient le voir soi-disant au nom de François Mitterrand pour le ramener dans le bercail. François Mitterrand ne demande rien à personne. Il y avait des tas de gens qui allaient le voir pour lui dire surtout continuer pour détruire la candidature de François Mitterrand. Il y a des, c'était là une époque où, faut se resituer à ce moment-là, Giscard est président de la République, il a tous les médias avec lui, comme vous l'avez rappelé avec ce qui s'est passé avec Coluche, François Mitterrand apparaît comme le vieux ringard, cynique et dépassé, qui fait un tour de manège de trop et qui doit laisser la place au plus vite à un plus jeune qui soit Michel Rocard, auquel tout le monde voulait que François Mitterrand cède. Et la candidature de Coluche apparaît comme une sorte de soutien à tous ceux qui voulaient pousser François Mitterrand dehors.
Toute blague et toute irrévérence mise à part, être le candidat des abstentionnistes, c'est une formidable ambition et un génial slogan aussi. De mémoire, est-ce qu'il y avait déjà eu un candidat se présentant de cette manière, Jacques Attali ?
Non, pas à ma connaissance, mais Michel était un être incroyablement intelligent, paradoxal, qui regardait tout d'un autre point de vue, et son point de vue était original en tout, donc qu'il soit le premier, ça m'étonnerait pas.
À l'époque, Romain Goupil, vous le rappeliez à l'instant, Coluche a quelques soucis avec la censure, il vient donc de se faire virer de Radio Monte-Carlo par le directeur de la station, Michel Bassi, qui fut en 76 le conseiller en communication du président Giscard. Ah oui, alors j'oubliais, Coluche sur Radio Monte-Carlo parlait de Monaco, comme je le cite, d'un rocher à pute. Fin de citation. Être candidat à l'élection présidentielle, Romain Goupil, c'était aussi une manière comme une autre de retrouver une liberté de parole, de commentaire.
C'est-à-dire que c'est le fait que par deux fois, et c'est la discussion du vendredi, en fait ça je peux le raconter que maintenant, puisque c'est a posteriori, ils écoutent l'émission, on ne parle absolument à aucun moment de la princesse, c'était le deal, on ne fait aucune allusion à Monaco, mais par contre chaque émission, et quel que soit ce qui se passait dans l'actualité ou ce qui se passait autour de nous, par exemple on bougeait un cendrier et on liait ça avec les diamants de Giscard. Donc on était en permanence sur les diamants de Giscard, mais quoi qu'on nous dise, qu'on fasse un concours, qu'on fasse ça. Et moi j'étais son assistant pour cette émission-là, plus dément que la préparation, et c'était que politique, mais pas du tout sur Monaco, il n'y a eu aucune allusion, et c'était le deal, et on dit, mais nous on n'en a rien à foutre de la princesse. Et par contre, on n'arrêtait pas sur les diamants et sur Giscard. Il se trouve que, ça aussi je l'ai compris moi 3 jours après ou 4 jours après, Michel Bassi avait été chef de cabinet de Giscard. Donc là, la connexion s'est faite très vite en disant, non mais ça va quoi, à un an ou quelques mois de l'élection, vous n'allez pas laisser en permanence taper Giscard, c'est complètement absurde. Ça s'est arrêté, et là, la discussion le soir... c'est de dire, ok, ils t'ont empêché de prendre la parole, de dire ce que tu pensais par rapport au ministère des Anciens Combattants, la guerre, et puis tout ce que disait Michel. Et là, on vient encore de se faire bloquer. Donc, la seule solution, si tu ne veux pas qu'il y ait de censure, c'est de présenter comme candidat à la candidature.
On est encore à une époque où la fonction présidentielle, le verbe qui l'accompagne, implique grandeur et stature. Un candidat qui a certes le verbe haut, mais assez peu énarco-aristocratique, on va dire. Est-ce que dans les éventuels camps adverses, ça a demandé une certaine forme d'adaptation pour répondre, Jacques Attali ?
Non, d'abord il faut bien rappeler ce que disait à l'instant
Romain Goupil.
Romain est tout à fait vrai, et plus général encore, c'est-à-dire qu'il y avait une censure absolue. Pour que n'importe qui de l'opposition aille à France Inter, à Europe 1 ou à RTL, il fallait l'accord du secrétaire général de l'Élysée, vous imaginez. C'est d'ailleurs le secrétaire général de l'Élysée de l'époque qui me l'a confirmé plus tard. Donc il y avait une censure totale, et comme il n'y avait pas de radio libre du tout, c'était vraiment un étouffoir absolu. Les médias étaient tenus tous par des militants. Donc, en effet, Michel, dont l'humour était très largement politique, a trouvé une ouverture et pour s'exprimer autrement. Est-ce qu'on a pris au sérieux sa candidature ? D'abord, il y avait eu déjà des candidatures plus ou moins farfelues dans les élections présidentielles précédentes.
Notamment Pierre Dac, en 65, qui avait lancé le mouvement ondulatoire unifié, dont le slogan était « Les temps sont durs, votez mou ». Il l'expliquait, écoutez-le.
Vous savez que nous vivons dans une époque extrêmement... surexcité, énervé, etc. Et extrêmement et hyper tendu. Alors, il est tellement tendu que nous avons pensé qu'il était bon de donner du mou à cette tension et de rétablir un équilibre. Bon,
votez mou, Pierre Dac, ça c'était déjà en 65. C'est une manière de génie en matière de communication politique, non ?
C'était génial. Mais Pierre Dac était aussi un très grand génie en même temps d'être un héros de la guerre.
Romain Goupil, Jacques Attali, nous avons la question d'un comédien qui a voulu lui aussi devenir président de la République, mais au cinéma cette fois. Et par ailleurs, votre double cinématographique, Jacques, c'est Denis Podalydès. Écoutez-le.
Est-ce que François Mitterrand avait vraiment peur d'une élection possible de Coluche? Est-ce qu'ils y ont cru? Est-ce que Jacques Attali a pensé que ce serait aussi possible? Et puis sinon, moi, c'est un hommage à Jacques Attali parce que je cherchais un point d'ancrage et je me disais comment il est très difficile de jouer quelqu'un de supérieurement intelligent. Comment fait-on? Je suis pas sûr d'avoir trouvé la réponse, mais c'était la question qui m'occupait sans cesse. Voilà. Et donc, c'est un hommage. Amitié. Denis Podalydès.
Alors, je ne peux évidemment pas répondre à votre place, hélas d'ailleurs, Jacques Attali, mais je vous en prie.
C'est la seule façon de faire quand les gens vous croient à tort supérieurement intelligent, c'est d'être aussi humble que possible, ouais, pour être à la hauteur de ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire on sait qu'on sait rien sur rien. Alors, pour ce qui est de de François Mitterrand, en fait, ça s'est joué très rapidement. On en a très peu parlé dans la campagne qui commençait, il y avait encore à ce moment-là, l'incertitude pour savoir s'il serait candidat ou ce serait Michel Rocard, etc. Mmh. Et donc, on en a très peu parlé. Ça l'amusait. Il n'a jamais pris Michel Coluche au sérieux comme candidat possible. Et quand des gens lui disaient « faudrait qu'on l'approche, pour voir qu'on peut faire », il disait « surtout pas, ne bougez pas, ne bougez pas, surtout pas, je veux pas qu'on lui parle », etc. Et c'est seulement quand, je vais peut-être le raconter maintenant, mais quand des amis communs qui étaient France Gall et Michel Berger m'ont dit « ça serait bien que tu viennes dîner avec lui », que j'ai dit à François Mitterrand « je vais dîner ». Je lui ai pas demandé l'autorisation, je lui ai dit « je dîne avec Coluche que je ne connais pas samedi prochain ». Il me dit « surtout, vous y allez parce que ça vous amuse, mais je ne vous envoie pas le voir. Si il vous dit quelque chose, c'est à vous qu'il le dit, mais moi je ne demande rien. Je ne demande rien ». Et c'est là, au cours de ce dîner, où on s'est d'abord engueulé d'une façon extrêmement sévère. Il m'a traité de menteur, moi aussi. Enfin, la soirée était très rude. Et à la fin, je me souviens, c'était un samedi soir, il me dit, faut que je te parle. Bon, France Gall a dit ensuite, d'ailleurs, qu'elle avait assisté à un coup de foudre. C'est vrai, c'était un coup de foudre. Et donc, il est venu le lendemain après-midi, chez moi, dans ma cuisine. Je me souviens, c'était 2 heures d'après-midi. Et là, il me dit une phrase qui me stupéfait, mais vraiment me stupéfait. Il me dit, écoute, faut que tu saches, je serai pas candidat. D'abord, je suis pas en vie. Puis ensuite, j'ai zéro signature. Ce qui renforce et confirme ce qu'a dit Romain tout à l'heure. J'ai zéro signature, j'en veux pas. J'ai zéro signature. Mon projet, c'est pas d'être candidat à la présidence de la République. J'en ai rien à foutre. C'est de pouvoir m'exprimer, parler et de le faire battre. Je me dis, faire battre qui? Il me dit, Giscard. Donc, ce que je veux c'est le faire battre. Et donc, je vais t'aider. Voilà ce que j'entends. Donc, je voulais dire, extraordinairement surpris. Je m'attendais pas du tout à entendre ça. Et là, on a, en effet, travailler ensemble après.
Nous parlons de Coluche et de politique dans la suite de ce pop-pop-pop spécial, juste après le premier morceau de cette playlist 100% 1981, et c'est un classique Soft Cell, Tainted Love. Marcel, Tainted Love dans ce pop-pop-pop hors série. C'est un morceau de 1981, l'année qui nous intéresse aujourd'hui. Et avant de parler de 81, faisons un détour par l'année 1973. En 73, Coluche disait ceci.
Et on ne fait pas du théâtre pour militer, nous, c'est pas... Ou alors on fait des révolutions, mais... Effectivement, on peut faire évoluer, peut-être, j'en sais rien, peut-être qu'on peut faire évoluer... Les mœurs ou l'état d'esprit politisé. On peut politiser les gens avec du théâtre. On peut faire évoluer les mœurs. Mais ça, je crois qu'on peut pas faire autrement, surtout. On le fait systématiquement. Notre pièce de théâtre qui n'a rien à voir avec la politique ni avec les mœurs actuelles, par exemple, eh ben, fait probablement quelque chose dans ce sens-là, parce que tout acte est politique.
7 ans plus tard, quand il se déclare candidat, c'est toujours pour faire du spectacle, pour faire marrer, ou bien il a une autre idée derrière la tête, Romain Goupil ?
L'idée principale, et là, elle ne vient pas uniquement de Michel, on est toute une bande. Donc là, c'est sûr qu'on est les plus brillants au monde, ou les plus intelligents, puisque là, il y a intelligence collective de toute la bande. Et dans la bande, il y a Rezer, il y a Volinsky, il y a GB, principalement, il y a le professeur Choron, il y a toute la clique qui dîne tous les soirs, qui est en cellule permanente et active, à coup de bataille de bouteilles de vin, de bataille de bouffe, de déconnade encore. Et après, il y a en bas, au sous-sol de la rue Gazan, après le dîner se fait au premier étage, enfin à l'entresol. Et après, c'est des joints qui sont roulés en continu pour tous les invités et pour tout le... Et là, ça continue les avec élaborations. Gérard, donc il y a réellement, absolument réellement, une pensée de révolte absolue, c'est la première affiche. J'appelle tous les drogués, tous les ex-communistes, tous les PD, tous les, enfin, le truc absolument incorrect au possible. L'idée, c'est de dire, vous avez les moyens de changer les choses. Ça fait 23 ans que c'est le pouvoir de droite. Donc là, c'est franchement très, très axé, très politique. On peut le dire maintenant avec des mots de maintenant, mais ça n'existait pas à l'époque, c'était donner la parole aux sans-parole, c'est-à-dire aux sans-droits, aux sans-papiers, à tout. C'est mis dans l'affiche, mais on n'a pas ce concept encore. Et donc, inscrivez-vous sur les listes électorales. Mais c'est notre seul but. C'est-à-dire, je suis et... On a un programme, c'est le programme, il est tout à fait révolutionnaire. Plus d'argent, plus de mariage, plus de travail, et probablement... plus c'est pas la légalisation de la drogue, c'est la drogue qui est offerte.
Open bar.
On le sent donc faire marrer tout en assénant quelques uppercuts bien sentis. J'ai notamment en mémoire le « un pour tous, tous pourris ». Ça reste une formule qu'on entend encore à chaque élection. Est-ce qu'au moment où elle a été lâchée, vous sentiez la pérennité de la formule en question ? Et surtout, quel effet immédiat elle a eu ?
Elle a eu un effet immédiat pour moi de rupture, c'est-à-dire « un pour tous, tous pourris », c'est le changement de la fin, justement, de ce que je vous expliquais, qui était l'ultra-gauche, extrême-gauche, qui était révolutionnaire au sens anarchiste de Harakiri et de la bande. Là, « un pour tous, tous pourris », ça veut dire que tous les politiques se valent. Et là, c'est Lederman, son impresario, qui va pousser dans cette fonction-là en disant « Moi, j'en ai rien à foutre, c'était les conditions, vous devez pas aller appuyer un camp, vous devez séduire le public dans son ensemble. » Et il n'y a pas de public de droite, pas de public de gauche, c'est le public. Et moi, j'ai les adios musicals, j'ai le gymnase, et donc arrêtez de faire chier avec vos engagements, arrêtez de faire chier avec votre drapeau, parce que notre drapeau, nous, on avait fait la photo officielle. Pour la suite, l'échange était le suivant, c'est-à-dire Harakiri de donner le JO, journal officiel, et ce qu'il devait y avoir dans les mairies, c'était bleu, blanc, merde, et lui assis sur ses chiottes. En aucun cas tous pourris. Donc à partir du tous pourris, c'est moi qui commence à être en rupture, mais très sérieusement. Et là, il va y avoir invitation de Gérard Nicou rue Gazan, et je fais une lettre publique en disant que c'en est fini, et là on va se fâcher, parce que justement, on n'est plus d'accord sur le but de cette campagne.
Jacques Attali, avant cette histoire de candidature, il vous faisait marrer, comme il disait, Coluche
Évidemment, 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 moi j'étais fou d'admiration pour cette...
Qu'est-ce qui vous plaisait chez lui ?
je trouvais qu'il était, une libération incroyable. Je me souviens avoir arrêté ma voiture pour l'écouter pendant la dernière émission qu'il a fait à France Inter, où il a été viré d'ailleurs dans la minute qui a suivi, où c'était un moment de liberté. Mmh. Encore une fois, je vous le redis, on n'entendait rien. C'était, tout ça était incroyablement censuré. Tout était censuré. Il n'y a pas de droit des femmes, pas de droit des homosexuels. C'était vraiment une société extraordinairement paralysée et complètement. Et donc Michel apportait une liberté intellectuelle, quelque chose d'extraordinaire. Alors il a été utilisé contre la politique. C'est vrai que Lederman a été, lui, complètement obsédé par son rôle, c'est-à-dire faire des sous et avoir un maximum de public. Donc la candidature ne fini par lui déplaire. Mais la candidature a aussi été utilisée à certains moments. Mmh. Et par exemple, quand Michel Rocard a été candidat à la candidature, le Nouvel Obs a fait sa couverture sur Michel Rocard en tenue de président de la République. Mmh. Quand François Mitterrand a annoncé sa candidature contre Michel Rocard à la candidature des socialistes, le Nouvel Obs a fait sa couverture sur Coluche en président. Mmh. Jamais François Mitterrand n'a pardonné à Jean Daniel et aux dirigeants de Nouvel Obs d'avoir fait ça.
Nous sommes aujourd'hui en train de parler de Coluche, de l'élection présidentielle de 1981. Vous écoutez bien Popopop, cette édition spéciale, dans une semaine spéciale consacrée à Coluche.
Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'éléments de langage en politique. Eh bien, écoutez un extrait de la conférence de presse de Coluche. C'était sa conférence de presse de candidature. C'était en octobre 80 au gymnase.
J'ai peur, si vous voulez, que le régime de Giscard soit appelé à prendre de l'ampleur et que tout le monde crie « Vive l'ampleur !» Alors, comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi.
La formule est drôle, mais le coup est douloureux. Alors certes, les politiques n'avaient déjà pas l'habitude de les retenir, mais assénés de cette manière par un homme de la société civile extrêmement populaire, comment ces mots résonnent-ils ?
Romain.
C'est-à-dire que là, on avait une rubrique permanente qui datait d'avant, hein, parallèlement à cette émission On s'est fait virer, on avait toutes les semaines le journal des cons et des malentendants où on faisait la critique de l'actualité politique. Et toutes ces phrases, tous ces résumés, toutes ces punchlines, ça n'existait pas à l'époque, mais toute cette façon de concentrer notre réaction était liée à notre travail permanent avec les équipes, l'équipe de Charlie. Mais faut l'entendre, là, ça paraît sérieux, mais quand je dis équipe de Charlie, avec Reiser, avec Volinsky, avec Cabu, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire, ça balançait, c'était pire. Qui allait trouver encore pire? Donc, on venait avec on faisait des photos rue Gazan, et là, mon boulot, c'était de mettre des bulles. Et de faire donc de. Et après, ça nous a servi de matière pour cette campagne. Il faut bien. Jacques a raison. Il manque un tout petit élément pour que tout le monde comprenne bien. Une élection en France depuis la nuit des temps, femme droite-gauche, ça joue à 4 points. Ouais. Là, c'est sûr que si vous nous créditez de 16 points, même si c'est bien atteint, même si c'est instrumentalisé par Nouvel Obs, et il a raison par rapport à Rocard, et nous aussi, on instrumentalisait par l'extrême gauche, les anciens de 68, j'étais pas du tout, j'étais plus militant, mais c'est sûr qu'il fallait que ça change, que ça bouge, que d'un point de vue réformiste, qu'on participe aux élections. Et si jamais on dit un mot, on fait bouger 2 ou 3 points. Mmh. Et donc c'est là où l'enjeu est devenu un enjeu politique, mais pas du tout, il n'y a pas du tout à être péjoratif. C'est normal que François Loncle se soit approché de nous. Ouais. C'est normal que les équipes de Giscard se soient approchées de nous à l'époque, parce que le mot qu'on disait était un mot qui pouvait faire bouger l'élection. Ouais. Et là, c'est normal que Jacques aussi comprendre comment fonctionnait. Mais de base, c'est de gauche, mais vraiment de gauche. Mmh. C'est prenez de gauche et en plus social-démocrate, bizarrement.
Vous êtes d'accord, Jacques Attali ?
Tout à fait. Moi, j'en suis resté à cette phrase que je vous ai tout à l'heure entendue le dimanche qui a suivi notre rencontre par Michel et qui a été le fil conducteur de notre amitié pendant les années qui ont suivi jusqu'à sa mort. Moi, je suis là pour vous faire réussir et j'ai confiance en vous. Voilà. Et donc c'était un homme de gauche qui voulait à tout prix que la gauche arrive au pouvoir, qui l'a regardé avec ironie, cruauté, sévérité, exigence extrême, mais tendresse.
C'est Jacques Attali que vous écoutez en ce moment, ainsi que Romain Goupil, venu parler aujourd'hui de Coluche et de cette fameuse élection présidentielle de 1981 dans ce pop-pop-pop consacré toute la semaine à Coluche. Alors l'année 81 est riche pour la pop culture, nouvelle preuve avec ce morceau de Téléphone, argent trop cher. Coluche et la politique, thème du jour de ce pop-up spécial en compagnie de Jacques Attali et Romain Goupil. Coluche voulait être le candidat des faiseurs de patins roulettes, des PD, des nègres, des vieux qui ont une retraite de merde, des chômeurs, des crasseux, des chevelus. En un mot, comme en mille, le candidat de tous ceux auxquels la politique traditionnelle ne s'intéressait pas. Mais ça faisait quand même du monde tout ça, non, Jacques, Romain?
Ça, c'est énormément de monde par rapport à ceux qui considéraient que la politique servait à rien, que c'était pas leur problème. Et puis, ça sortait d'une période dont j'étais aussi un des témoins, enfin, des acteurs, c'était élection piège à con. Mm-hmm. C'est-à-dire, grosso modo, on laisse le pouvoir aux mains des politiciens et ça nous concerne pas. Mm-hmm. Donc, du coup, d'appeler tous ceux qui se sentaient en marge ou toute cette marge avait une importance politique de...
À l'inverse, il y a des gens à qui ils ne souhaitaient pas parler. On se pose les questions maintenant, au moment des élections.
Ah bah moi, j'en étais absolument persuadé. C'était hors de question d'avoir quelques contacts, que ça soit avec l'extrême droite. Et pour moi, bah ça allait de soi, bien sûr. Jacques l'a rappelé aussi par rapport à ce qu'on connaît du personnage, le fait qu'il était à Bagneux, qu'il vendait l'humanité ou qu'il connaissait les jeunesses communistes de Bagneux à l'époque. C'était une banlieue rouge. Donc là, on était antifasciste. Mmh. Mais quand il va faire le petit pas... au nom de tous pourris avec Poujade, c'est là où c'est moi qui ai une rupture. Ouais. C'est-à-dire que à un moment donné, ils considèrent qu'il faut parler aussi à tous ceux qui sont antifiscalistes, contre la télévision, contre les motards en colère, toute une base qu'on pourrait appeler populiste. Mmh. Alors que c'était pas du tout, mais absolument pas du tout.
Jacques Attali, vous diriez aussi les laisser pour compte de la politique traditionnelle?
Oui, il faut, encore une fois, les circonstances sont différentes d'une époque à l'autre. Aujourd'hui, oui, les enjeux sont radicalement différents, même s'il nous manque, il me manque comme un ami, mais il nous manque. Sa voix est affreusement absente. Mais à l'époque, il faut bien voir, on est dans une époque où depuis pratiquement 1945, la droite est au pouvoir avec parfois des partis de gauche qui se commettent à gouverner à droite, avec la droite. Mais d'élection en élection, hein, on a perdu 65, on a perdu 74, on a perdu 77, on a perdu 78. Et donc en 81, on pense qu'on va encore perdre, quoi. Mm-hmm. Moi, je suis encore très jeune, mais tous ceux qui ont un âge plus avancé se disent c'est foutu, on n'y arrivera jamais, c'est pas la peine. Donc cherchons l'autre chemin. Et l'autre chemin, c'est hors de la politique. Et forcément, à ce moment-là, on dit tous pourris. Mm-hmm. Voilà. Donc il y avait ce sentiment de... C'est vrai que je pense que si François Mitterrand n'avait pas été élu, si on avait perdu une autre fois de plus, et si Giscard était resté, si la peine de mort avait duré, s'il avait toujours pas de radio libre, parce qu'on mm-hmm. n'imagine pas aujourd'hui le paysage qui aurait été, si, qui aurait perduré si Giscard mm-hmm. avait été réélu. Avec tout ce qu'on a d'acquis aujourd'hui, qui est une évidence, mais qui n'a été qu'une évidence mm-hmm. qu'après 80 ans, mm-hmm. on n'imagine pas. Je pense qu'il y aurait eu à ce moment-là un désespoir à l'égard du politique que Michel en donnant en quelque sorte la dernière chance à la politique,
oui.
a permis de surmonter.
Communication politique, coup de com', Coluche en parlait à ce micro, ici même celui de France Inter, c'était en 1981 dans le magazine de Pierre Bouteiller.
Tu vas aller jusqu'au bout?
Mais évidemment. Mais évidemment. D'abord, dans ton sondage, il y a deux trucs qui sont intéressants. Il y a que les gens disent que ma candidature n'est pas sérieuse, ils ont absolument raison, et que d'autre part, ça me fait beaucoup de publicité, ils ont extrêmement raison aussi. Donc ça fait déjà deux bonnes raisons pour que j'aille jusqu'au bout.
Il semblait très résolu. Qu'est-ce qui l'a finalement amené à renoncer ?
Non, il est très résolu dans le discours. Mmh. C'est un, il fait du show. C'est un incroyable humoriste. Il fait du, il est sur scène. Donc, en aucun cas, ne céder et dire que on va jusqu'au bout. Mmh. Il sait très bien, on a une signature. Qu'on va pas aller jusqu'au bout. Et donc, la mise en scène de faire croire qu'on nous fait plier ou qu'on nous menace et tout est ridicule. Mais ça fait partie de l'agit-prop. On fait croire qu'on est menacé, on fait croire qu'on nous empêche de parler, que c'est une république bananière, qu'on est menacé de mort, patati patata. On sait très bien.
Attali, vous arriviez à lire entre les lignes, vous aussi ?
Non, à ce moment-là, pas du tout. C'est l'émission dont je parlais tout à l'heure, en disant que j'ai arrêté ma voiture pour écouter Pierre Bouteiller avec Coluche. Mon souvenir, ils ont été virés tous les deux de la radio la semaine suivante. Je crois que Pierre Bouteiller a perdu son émission après cette interview. Et c'est mon souvenir. En tout cas, je sais pas si fait une collision des faits pour réduire les événements à un temps plus réduit, mais il me semble que c'est ça qui est arrivé. Donc, à aucun moment, je n'imaginais qu'il était dans cette situation. Je pensais qu'il avait l'intention d'aller au bout. Mm-hmm. C'est que quand il m'a dit, à peu près à ce moment-là, un peu quelques semaines plus tard, qu'il n'avait aucune signature. Alors, il m'a dit zéro. Romain dit une seule. Ça peut pas et que, de toute façon, il n'avait pas l'intention de se présenter, que j'ai compris qu'on avait affaire à quelqu'un de très sérieux. Parce qu'être capable de faire croire à tout le monde, y compris aux gens les plus sérieux, que sa candidature était sérieuse alors qu'elle ne l'était pas, ça prouvait qu'il était extrêmement sérieux. Alors, il semble quelqu'un de très, 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 très compétent.
Il semblerait que l'exemple de Coluche, celui du clown qui a des ambitions politiques, ait fait des émules. En Italie, par exemple, où Beppe Grillo a lancé le mouvement 5 étoiles, Beppe Grillo qui avait joué avec Coluche dans son dernier film, Le Fou de Guerre.
Alors, c'est toi le nouvel arrivant ?
C'est exact, mon capitaine, à vos ordres. Sous-lieutenant Lupi Marcello.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Ce sont des Ice, tout dernier modèle. Elles sont belles,
hein? Pas très réglementaires. Messieurs, je viens d'apprendre que le front se rapproche. L'Italie va bientôt avoir besoin de nous. Il était temps d'ailleurs, parce qu'ici, il n'y a rien à foutre. Nitti, pour l'amour que je te porte, trouve du travail assez feignant.
Ce sera dur, mais j'essaierai.
Extrait du Fou de Guerre de Nino Rizzi, c'était en 1985, où on découvre que Beppe Grillo parle très couramment français. Oui, bien sûr. Alors la différence, c'est que Beppe Grillo est allé jusqu'au bout, jusqu'à obtenir avec son parti 23% des voix aux élections de 2013, mais il a même pris un virage, un poil populiste, on va dire, en s'associant avec des Nigel Farage ou des Dupont-Aignan. Ça vous inspire quoi, ça, Jacques Attali ?
C'est complètement différent, en fait. Beppe Grillo, en effet, avait une dimension coluchienne dans son approche, mais en fait, il était... Alors, est-ce qu'il était manipulé ou manipulateur ? Mais enfin, il était le bras visible, la partie visible de l'iceberg d'une grosse équipe qui était surtout dirigée par des gens qui faisaient des analyses de sondage en permanence sur savoir ce qu'il fallait dire à l'opinion pour l'emporter. Mm-hmm. Donc, il y avait une vraie volonté de casser le système italien et de prendre le pouvoir, dont Beppe Grillo n'était que le porte-parole, qui a d'ailleurs été très vite écarté quand il s'agit de gouverner, parce qu'il a fait des voix, mais il n'a jamais été lui-même au pouvoir. Il a laissé la place à des gens qui étaient soi-disant plus sérieux, mais qui représentaient la cause qu'il était. C'est comme s'il y avait eu derrière, c'est comme si Romain avait été un grand patron d'institut de sondage, faisait des sondages pour savoir ce qu'il fallait faire dire à Michel et les disait de façon à gagner les voix vraiment. Donc on était dans une situation complètement différente. Et puis le système n'était pas le même, puisque là il fallait des parrainages pour les élections présidentielles, ce qui n'est pas le cas de la même façon aux élections italiennes, donc c'est complètement différent. Mais il y avait Beppe Grillo et n'était que le porte-parole d'un mouvement extrêmement structuré, extrêmement sophistiqué, qu'on a vu en effet extrêmement cynique d'ailleurs, qui est là uniquement opportuniste, savoir ce qu'il faut dire pour avoir des voix.
Revenons de ce côté-ci des Alpes. Romain Bouteille, le fondateur du Café de la Gare, le cofondateur, l'homme qui a découvert Coluche, était lui aussi cette semaine à ce micro. Et au sujet de sa candidature, il nous livrait cette analyse. Écoutez bien, Romain Goupil.
Oh, j'aurais été amusé qu'il soit président, mais j'ignore totalement si il serait pas devenu une sorte de Le Pen, voyez, avec son envie d'autorité, puissance, etc.
C'est la remontée brutale des températures qui lui tape sur le crâne ou il y a un micro-fond de vérité dans ce qu'il dit ?
Non, il y a un micro-fond à la preuve de notre fâcherie. On a tous senti à un moment, et je me rappelle tout à fait de la lettre, en disant, la lettre de rupture, en disant tout ce qu'on dit depuis 67 et tout, est vrai. C'est-à-dire, à un moment donné, il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de discussion, et c'est imposé. Mais aucun problème, à aucun moment, Il ne s'est agi de construire un parti politique, c'est simplement donner la possibilité aux gens d'avoir une voix. Il s'est fait le mégaphone. À aucun moment, le rêve absolu de toutes nos soirées, et c'était de se barrer en Guadeloupe à Dehaye et de vivre en communauté pendant que tout le monde était en train de construire des cahutes. C'était ça, Jean-Jean, Lanvin, toute la bande, c'était se barrer là-bas. Donc surtout sortir de ce qu'était l'ambiance à Paris et l'ambiance politique, politicienne.
Jacques Attali, Romain Goupil, ce pop-up-up présidentiel continue. Le temps de se replonger dans l'année 81 avec Moon Martin, Bad News. Martine, Bad News, l'a bien nommé puisque le malheureux a disparu il y a quelques mois. Un petit maître certes, mais qui mérite d'être redécouvert, cet extrait de l'album Street Fever. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture cette semaine de façon...
Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons.
Eh oui, car nous parlons aujourd'hui du candidat bleu-blanc-merde, Coluche. Aujourd'hui, mercredi 4 mars 2021, nous sommes à quelques jours des 40 ans de cette archive.
Un postulant candidat a quant à lui annoncé lui-même cet après-midi qu'il n'avait pas les signatures nécessaires. Il s'agissait de Coluche à Strasbourg, qui, à sa manière, a quitté la scène politique.
C'était très bien. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gratte un peu, quoi. Puisque si moi, ça me fait pas rire, comment je vais faire pour faire rire les autres ?
Romain Goupil, Jacques Attali, vous souvenez-vous de où vous étiez quand cette annonce a eu lieu ?
Pour ce qui me concerne, j'avais reçu, on était fâchés donc depuis mars. Je trouvais que ça tournait complètement de manière lamentable, qu'on ne trouvait pas la chute, que pour moi la chute c'était, et pour leur foutre au cul, j'appelle à voter à gauche, c'est tout. Par rapport à la droite, par rapport à la guerre d'Algérie, par rapport à la torture, par rapport à Papon, par rapport à tout. Toute notre histoire, par rapport à 68, par rapport à De Gaulle, on les emmerde. Et voilà comment il fallait terminer. De mon point de vue, c'est pas du tout comme ça que ça s'est organisé à partir de mars. J'ai rompu. Et de là, après, il m'a envoyé une lettre en disant « T'as raison, je me fourvoie, c'est une connerie, annonce ce que tu veux à la presse ». Et là-dessus, j'ai rien annoncé, j'ai gardé la lettre pour moi, je dis mais qu'il aille se faire foutre, être con à ce point-là avec l'entourage qui était autour de lui, qu'ils aillent tous se faire foutre. Et ils ont été poussés le ridicule jusqu'à faire une fausse grève de la faim, lamentable par rapport aux vraies grèves de la faim, ce qui se passait en Afrique du Sud, tout était lamentable. Au point que ça l'a amené à une dépression, après, le départ en Guadeloupe est devenu moins rigolo, les engueulades avec sa compagne, enfin Véronique. Sa femme, avec Véronique sont devenues assez rudes. Moi, j'étais du côté de Véronique, avec qui j'ai absolument pas rompu. Donc, il y a une façon dont, à ce niveau où on était, niveau historique, on s'en fout qu'on ait, qu'il n'y avait pas 16%. À 3 ou 4 points, on bougeait le pays. Donc, comment on n'a pas, sur un truc immense qui nous a complètement dépassés, moi y compris, comment on n'avait pas été capable de trouver la chute. La chute rigolote qui ferait qu'on serait là en train de déconner encore, de dire « Putain, quelle histoire !» Moi, il y a un goût amer. Et là, cette conférence de presse et cette façon de se victimiser en disant « Ils nous empêchent de parler, ils nous disent « Mais de quoi ils me parlent ? C'est des conneries !» la vraie campagne que commençait, on avait une signature, ça va. C'est-à-dire qu'il fallait avancer autrement.
Jacques Attali, vous avez réagi de la même manière ?
Non, moi, comme je vous l'ai dit, je savais depuis le début qu'il n'allait pas être candidat, donc je n'ai pas été surpris, mais c'est vrai qu'il n'a pas su sortir. On était déjà en permanence en contact et il disait beaucoup de choses qui étaient le résultat de conversations qu'on avait ensemble sur la façon de critiquer la droite, etc. Mais en même temps, il a pas su sortir d'une façon élégante. Mais ça m'a pas trop marqué. Ensuite, il a été si soucieux d'être. Enfin, nous étions devenus des amis si intimes que j'ai pas ressenti cela d'une façon désagréable. Peut-être puis-je raconter ce qui s'est passé le soir du 10 mai, parce que c'était assez révélateur. Le soir du 10 mai, il est venu au siège du Parti Socialiste, qui était rue de Solferino. Il y avait tellement de monde qu'il n'a pas pu entrer. Il a même été pris dans une bagarre. Et il n'est pas rentré. Et puis, il a même été molesté. Le lendemain, donc le 11 mai, il m'appelle vers midi. Il me dit « Tu sais pas ce qui m'arrive, il y a des flics qui viennent d'arriver chez moi ». Je dis « Pourquoi ?» Il me dit « Parce que c'est deux motards qui me sont envoyés, qui m'ont apporté une lettre de François Mitterrand. » Et François Mitterrand avait trouvé le temps le 11 mai au matin, alors qu'il avait autre chose à faire, il venait d'être élu président de la République, que d'écrire une petite lettre manuscrite à Michel pour lui dire qu'il était vraiment désolé de ne pas l'avoir vu et désolé qu'il se soit fait bousculer en venant le voir. Michel a été bouleversé, il m'a reparlé de cette lettre très souvent. Et c'est là que lui-même m'a envoyé une autre lettre, que d'ailleurs que Légende a publiée, que j'ai donnée à Légende pour la publier, où il dit toute la confiance qu'il a dans François Mitterrand. Et j'ai confiance en vous, se termine cette lettre, écrite avec son écriture assez jolie et comme d'habitude à l'encre verte. Romain a raison de dire qu'il rentre dans une période de dépression, que sa vie sentimentale devient très dure. C'était un moment très 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 lourd. Vraiment, il était au bord du suicide de mille et une façons, y compris d'ailleurs à moto. Et c'était en effet des années difficiles. Mais en même temps, il restait le grand Coluche qui souhaitait souvent que la ville emporte, qui était émerveillé, qui venait discuter avec moi et poser son magnétophone sur la table au déjeuner pour prendre des notes et pour essayer de comprendre le monde et vouloir savoir tout et qui était un merveilleux compagnon qui était d'une intelligence profonde, exceptionnelle. Je crois vraiment, j'ai pas rencontré beaucoup de gens aussi intelligents que lui.
Des dizaines d'années plus tard, le monde a considérablement bougé. Il y a peu de temps, il y a quelques mois, les Gilets jaunes se sont réclamés de l'héritage Coluche. Écoutez.
Un samedi de manifestation. Dans la foule, des pancartes interpellent Coluche. Les gilets jaunes reprennent des citations de l'humoriste et il est l'exemple même de celui qui avait tout compris.
Comment voulez-vous qu'un peuple dépense de l'argent s'il n'en a plus ? Je veux dire, comme disait Coluche, hein, la fin du mois c'est du 1er au 30.
C'est à la sueur de notre front que les salauds gagnent leur pognon !
Romain, Jacques, était-ce légitime à votre sens ?
J'ai trouvé ça, effectivement... il y avait plein de petites pancartes, plein de mecs avec un gilet jaune qui disaient Coluche, Coluche, c'est comme s'il incarnait, les gens se sont retrouvés dans une parole libre. Donc moi, bien sûr, j'y vois le signe de côté libertaire, du côté on prend la parole alors que tout est cadenassé. Il y a une autre version qui serait de dire c'est le tous pourris, c'est-à-dire on est contre le système, c'est que des pourris en haut et tout, mais pas du tout. Donc là, c'est compliqué. Mais ça veut dire qu'il incarne quelque chose. Il s'est réfugié au cœur des gens, dans le cœur des gens, et là, au niveau populaire, contre quelqu'un qui ne cédait pas. La preuve par les Restos du Cœur, la preuve par la suite de... Ah, bien sûr, après on est redevenus amis et oui, copains, et pour la petite lettre, effectivement, il avait cette petite carte que j'ai vue, de François Mitterrand, il en était très fier.
Jacques Attali, votre commentaire sur cet héritage ?
Cet héritage, il est très profond, parce que cet héritage, c'est pas celui qui pense que tout est pourri, c'est celui qui pense ailleurs. Hein. Il était resté, comme il le disait, de l'autre côté du périphérique, quoi. Regarder le monde d'ailleurs. Il y a mille et une phrases de lui qui disent cette façon de penser ailleurs. Cette façon de penser ailleurs qui est une façon de... qui vient à la fois avec celui qui ne sait rien, mais parce qu'il est pas enfermé par des connaissances dogmatiques, mais qui a une intelligence extrême. Quand il dit, par exemple, on peut pas parler à la télévision parce qu'il y a trop de monde qui écoute, il a tout dit, quoi. Il a tout dit. C'est à la fois hallucinant de dire une phrase pareille, mais quand on y réfléchit, elle est très, 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 très profonde. Un dernier souvenir, si vous permettez, qui, moi, le résume, rien de résume, Michel, mais un jour, je crois que c'est en 85, François Mitterrand va faire un discours à Lille, et j'y vais et je propose à Michel de venir. Donc Michel vient à un meeting de François Mitterrand. Je sais pas pourquoi d'ailleurs Mitterrand faisait un meeting, il était président, il faisait un grand discours. Et Michel était à côté de moi dans la salle. Et pendant tout le discours, je disais, qu'est-ce que c'est un pro, hein, c'est un vrai pro. Mais surtout que je raconte ça parce qu'en sortant, on a suivi François Mitterrand, et il y avait une haie de policiers qui faisaient la haie d'honneur au président de la République. Ces policiers avaient une épaulette blanche et saluaient. Et quand Coluche et moi on est sortis, on est passé derrière François Mitterrand, il y a un policier qui discrètement, a montré son épaulette. Il voulait que Coluche le dédicace. Et Coluche a dédicacé toutes les épaulettes de flics qui faisaient la haie d'honneur au président de la République. Et il était heureux de faire ça. Vous voyez, il y avait à la fois un sentiment de respect, de connivence, parce que les policiers, c'est le peuple aussi. Hein.
Oui.
Et de grande fierté d'être lui-même et pas autre chose.
Romain Goupil, Jacques Attali, je terminerai cette conversation à bâton rompu par des mots que vous avez écrits, Jacques. Je les cite, c'était à l'enterrement de Coluche. « Ils ne t'oublieront jamais, Michel, ceux à qui tu as fait comprendre avec ton génie des mots de feu qu'il faut être scandaleux pour lutter contre les scandales. » Terminons ce pop-pop-pop spécial en musique avec le dernier morceau de l'émission, lui aussi de 81, c'est Alain Bachung et le vertige de l'amour.
J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la Roquine Carmélite. La mère sup m'a vu venir. Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués. Puis y a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer. Non mais t'as vu ici. ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh, oh, vertige de l'amour. Tu chopes des cheveux à Saigon. Je m'écris des cartes postales du front. Si ça continue, je me découvre. T'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh, vertige de l'amour. Mon légionnaire attend qu'on chante. Et la tranchée vient d'être peinte. Écoute, si ça continue, je vais me découvrir.
Alain Bachung, Vertige de l'amour dans Pop 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 sur France Inter. C'est la BO de notre année 1981. Jacques Attali, Romain Goupil, nous avons entendu Denis Podalydès compléter cette phrase en début d'émission. Pour moi, Coluche sait, enfin, encore qu'il posait une question plutôt qu'il n'apportait une réponse. Eh bien, c'est votre tour. En une phrase, pour moi, Coluche sait. Eh bien, c'est à vous, Romain.
C'est la parole libre, c'est la moquerie, c'est l'insolence, c'est un ami éternel.
Jacques Attali.
C'est l'ami qui me manque le plus, et c'est l'homme qui savait penser depuis ailleurs pour nous dire nos quatre vérités avec tendresse.
Merci, merci infiniment à vous deux, Jacques Attali. Je précise d'ailleurs que vous publiez une histoire des médias chez Fayard ces jours-ci. Et merci Romain Goupil d'avoir accepté notre invitation. Et merci évidemment Charline.
Merci à vous.
Et à demain. Et aussi merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Florent Layani qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans Pop Pop Pop, tout dernier numéro de cette série spéciale consacrée à Coluche. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.